Helios.com.
Tout va bien. Oui, même si vous devez être chez mamie à midi tapante, que les enfants hurlent de faim et que l'autonomie de votre voiture fond. Pas de panique. Avec Engie Vianeo, rechargez vos batteries en 20 minutes seulement sur borne rapide. Le temps de prendre un encas et repartir sans retard. Jusqu'au 31 août, tentez de gagner 5000 euros de recharge grâce à l'appli Engie Vianeo par tirage au sort. Alors, on roule ensemble? Voir conditions sur engie-vianeo.com. J'agis avec Engie Vianeo. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le meilleur de On the Wild Side avec Laurent de Wild sur Radio Classique.
Bonsoir à toutes et à tous, content de vous retrouver en cette fin de semaine sur la Wild Side. Comme ces promeneuses et promeneurs les plus fidèles le savent, nos déambulations vespérales développent toujours un thème précis auquel s'attache notre programmation, et avec plusieurs centaines d'émissions derrière nous, n'est-il pas venu le moment de se dire « Et si au lieu de chercher midi à 14h, on ne jouait que des tubes ?» Solution de facilité, certes, mais comment ne pas craquer à la veille du week-end devant le plaisir d'écouter quelques grands classiques du jazz, des titres qui ont fait l'histoire de cette musique et continuent aujourd'hui d'irradier de leur beauté éternelle. Je vous propose donc de commencer par l'un des saxophonistes fondateurs de cette musique. Il est né en 1904, ses collègues l'appelaient affectueusement The Bean, le haricot, et il grava en 1939 une piste qui allait faire de lui une star adulée de son instrument. Le titre fut d'ailleurs repris par le romancier Frank Conroy pour son ouvrage magnifique dont je recommande à tous la lecture. Voici donc Coleman Hawkins dans Body and Soul. Mm-hmm.
Laurent de Wild sur Radio Classique.
Nous venons d'entendre l'orchestre de légende emmené par le saxophoniste alto Charlie Parker. Il y avait Miles Davis à la trompette, John Lewis était au piano, Max Roach à la batterie et l'enregistrement date du 18 septembre 1948. Il s'agit de Parker's Mood, une composition du saxophoniste qui allait devenir un classique. Et oui, nous ne jouons que des tubes pour vous ce soir on the Wild Side. Et je vous propose d'enchaîner avec la chanteuse Sarah Vaughan qui nous interprète le classique de George Shearing, Lullaby of Birdland.
What I always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low, kiss me sweet, And we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. There's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Avec Laurent de Wild, soirée jazz sur Radio Classique.
Platon écrit dans Phèdre à propos de l'amour, hein, le détachement d'un amour particulier pour atteindre l'amour total, l'amour absolu. Et c'est donc dans ce détachement du mystique, détachement du terrestre, détachement, qu'il va découvrir, alors là, l'objet d'amour, ce sera la patrie et ce qu'elle appelle la patrie véritable. Et la patrie véritable, c'est pas une terre, c'est une terre, mais c'est une terre où l'histoire fut un jour semée.
Une patrie spirituelle.
Voilà, une patrie pneumatique, oui, spirituelle, tout à fait.
C'est peut-être donc dans les situations désespérantes, comme celle de l'exil qu'on vient de mentionner, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la guerre, la mort, que l'expérience mystique peut se révéler féconde, puisqu'en effet, n'est-ce pas du désespoir que peut surgir une forme de transcendance, à savoir l'espérance, que Maria Zambrano décrit, je la cite, comme ce qu'il y a de plus humain, mais aussi de divin dans la vie de l'homme. Jean-Marc Sourdillon.
Oui, alors, effectivement, peut-être qu'avant de... Oui, enfin, d'abord, c'est l'expérience de l'exil va être celle d'un dénuement total, enfin, se retrouver tout d'un coup sans les contours qui forment le moi, sans les... On l'a dit tout à l'heure, hein, ce qui forme le séjour, l'exil.
Et peut-être sans le cocon de la chrysalide, exactement. Si on reprend l'image.
Oui, et je pense que l'image qui... Enfin, c'est le sentiment exact de l'abandon. d'être abandonné. Et à ce moment-là, le sentiment qu'éprouve l'exilé, et donc la, c'est celui d'être un nouveau-né, d'être réduit à l'état de nouveau-né. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, puisqu'on n'a plus de définition, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est naître. Et cela suppose de sentir qu'on est le lieu d'une transcendance, mais cette fois-là, d'une transcendance à l'intérieur du temps, et que donc on doit aller en se transformant, parce que ça, je crois que c'est une idée essentielle qu'il faut dire à un moment, c'est que pour Maria Zambrano, et là ça nous conduit du côté du biologique, c'est que l'être humain, à la différence de l'animal, lorsqu'il naît, n'est pas achevé. Et que, en fait, il éprouve donc le besoin très profondément, pour continuellement s'adapter au monde, de naître et de continuer à naître jusqu'à l'achèvement.
On l'avait vu dans Personne et démocratie, ce livre-là, elle écrit que l'homme est un être qui n'en aura jamais fini de naître.
Exactement. Voilà. Et donc, c'est une sorte de geste inachevé. Voilà. Et il s'agit de naître au-delà de la mort, au bout d'un moment, de continuer
Tout semble se passer comme si c'est de la mort que naît la vie. Et vous avez identifié dans vos travaux sur Maria Zambrano, Jean-Marc Sourdillon, une sorte de triade conceptuelle, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais qui s'articule autour de l'agonie, l'espérance et la naissance, justement.
Exactement. Alors, je trouve qu'on voit très bien dans le cas de figure de l'exil, c'est-à-dire que Maria Zambrano, c'est quelqu'un qui a rêvé la République, qui a combattu pour elle, et qui donc, et puis même qui a rêvé une vie pour elle en Espagne, et donc tous ses espoirs d'un coup s'écroulent. Et c'est là, à ce moment-là, qu'elle se retrouve dans le dénuement le plus total.
Et si on s'intéresse alors de façon plus approfondie à ce qui nous permet d'avancer vers la clarté naissante de l'aurore, c'est bien l'espérance, en tant que moteur de l'histoire, qu'il faut prendre en considération. C'est pourquoi je vous propose d'écouter la lecture d'un extrait de Maria Zambrano, intitulé « Les racines de l'espérance », publié dans Los Bienaventurados en 1990.
Vivre ne suffit pas à l'être humain. Il ne vit vraiment que lorsqu'il est en train de vivre une histoire, individuelle et collective, qui possède un sens. C'est en fonction de l'espérance que le sens de l'histoire personnelle s'atteint, en dépit de toutes les différences qui peuvent apparaître entre l'histoire personnelle et l'histoire proprement dite, celle de la collectivité à laquelle on appartient, ou celle, enfin, de l'humanité tout entière, l'espérance déposée en elle. Ce que l'histoire recèle de promesses, et qui, en dépit de tous ses avatars, va en s'accomplissant, est ce qui lui donne son caractère d'histoire humaine, ce qui lui permet d'être racontée. Une histoire sans espérance ne peut faire l'objet d'un récit. L'espérance, en donnant le sens de l'histoire, de toute histoire, construit la continuité de la vie. Ce souffle, si souvent imperceptible, finit par être constructeur. L'acte d'édifier depuis le commencement fait partie de cette construction du pont de l'histoire humaine. D'un pont qui passe sur le fleuve du temps et qui simultanément conduit l'eau. D'un pont que l'on pourrait nommer aqueduc.
France Culture, avoir raison avec Maria Zambrano. Carla Michel.
Maria Zambrano parle dans ce texte de l'espérance, une vertu théologale, qui prend dans son œuvre la forme d'une force vitale. Elisabeth Barr, qu'est-ce qui distingue l'espérance de l'espoir chez Maria Zambrano ?
Alors justement, l'espoir, c'est, j'allais dire, c'est de l'ordre de l'humain, et il a toujours un objet humain. On espère quelque chose, on espère une amélioration de sa situation, on espère que ses enfants réussissent leurs examens, etc. Alors que l'espérance, c'est en quelque sorte sans objet, et elle dit dans son essai « Les racines de l'espérance » que c'est une force surhumaine. Elle prend l'exemple des peuples opprimés et menacés d'anéantissement, qui pendant parfois plusieurs générations vivent une situation quasiment invivable et qui gardent quand même cette force au-dessus effectivement du fleuve du temps. Donc c'est une force surnaturelle. Elle dit, donc je la cite, « C'est le fondement ultime de la vie. Elle est la vie humaine, la vie elle-même, qui chez l'être humain se dirige inexorablement vers une finalité, vers un au-delà, la vie qui, enfermée dans la forme d'un individu, la déborde, la transcende. » Donc, l'espérance, c'est la vie qui déborde la vie même de l'individu. Et l'un des symboles de l'espérance, c'est justement le cœur où bat toujours l'espérance. Donc c'est une force surhumaine qui ensuite peut donner cette puissance créatrice, c'est-à-dire comme non seulement de toujours naître et renaître, mais de toujours créer quelque chose, créer une œuvre ou créer malgré justement les désastres que l'on traverse.
Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle qualifie l'espérance de moteur. Maria Zambrano nous dit que l'espérance donne le sens de l'histoire et ce faisant, je cite le texte, construit la continuité de la vie. Pour illustrer ce que l'espérance construit, Maria Zambrano prend l'image d'un aqueduc. Jean-Marc Sourdillon, que nous dit cette image et pourquoi le pont de l'histoire humaine est un type de pont bien précis, à savoir un aqueduc?
D'abord, la première chose, c'est qu'effectivement, quand elle réfléchit à l'histoire, bien sûr, c'est au récit de l'histoire, et elle voit que, en fait, chaque génération ou chaque individu reprend, il s'agit de reprise, des rêves brisés de ceux qui ont précédé. Et donc, justement, les espoirs déçus, et qui sont reconduits comme ça sous une forme de renaissance continuelle à l'intérieur de l'histoire de chacun. Et elle aime, justement, l'image d'un pont avec ses arches, hein, et on voit comme ça ce mouvement des rêves qui se reprennent et qui se réalisent petit à petit, toujours d'une manière imparfaite, mais qui continuent comme ça. Et ça devient donc l'image concrète de l'espérance. Alors, l'aqueduc, c'est très intéressant.
Oui, parce que je crois que vous avez une anecdote qui concerne la vie bio de Maria Zambrano elle-même.
Voilà, on a exactement le cas d'une figure. C'est-à-dire qu'en fait, cet aqueduc, c'est un aqueduc réel dans l'histoire de Maria Zambrano, parce qu'elle a habité longtemps à Ségovie. Et à Ségovie, il y a un grand aqueduc. Et c'est là qu'allait se promener son père, Blas Zambrano, avec son meilleur ami Machado.
Antonio Machado.
Et discutait, et refaisait le monde sous cet aqueduc-là. Et lorsque le père de Maria Zambrano est mort, c'est-à-dire en 1938, en novembre 1938, c'est-à-dire au moment de la fin de la République, la fin de la guerre d'Espagne, et au moment du départ en exil de sa fille, elle a reçu une lettre de Machado qui lui disait « J'ai fait un rêve et j'ai revu votre père et son aqueduc. Votre père m'est apparu comme un architecte d'aqueduc. » C'est-à-dire qu'en fait, il était celui qui incarnait l'espérance. Et son métier, c'était d'être professeur, d'être pédagogue et de transmettre. Et je pense que ce qu'il a transmis à sa fille et ce qui lui a permis de passer à travers une vie tellement douloureuse, tellement d'effondrement, d'échec, d'occasion de souffrir ou de dépression même. Ça a été justement ce que son père lui a transmis, cette espérance. Et donc, elle est aussi elle-même une architecte d'aqueduc. Et à travers cette image, c'est ce qu'elle nous transmet finalement. Cette image de l'espérance comme espoir d'un on ne sait quoi qui se situe du côté de la transcendance et qui nous conduit à naître et renaître constamment dans notre existence et à emporter avec nous les autres hommes.
Et c'est aussi pour ça, peut-être, qu'une autre métaphore de l'espérance que prend Maria Zambrano, ce sont les ruines. C'est un texte datant de 1951. Je lis quelques lignes. « Toute l'histoire, même la plus splendide, est un échec qui porte en lui-même son triomphe, la renaissance incessante de l'espérance humaine, symbolisée par le lierre. » Qu'est-ce que cette figure du lierre vous évoque, Jean-Marc Sourdillon ?
Elle vient de Dionysos, je pense, déjà, peut-être.
Oui.
Bon, et je pense que ça compte pour Maria Zambrano. Mais c'est effectivement l'idée que... Il y avait une phrase d'une poète qui s'appelle Marie-Noël, qui à propos du lierre, « Je ne meurs pas, je m'attache. Voilà. » Hein, l'idée d'une sorte de résistance, de persistance dans le temps. Et effectivement, cette incessante renaissance au cours du temps qui fait que peut-être que c'est urgent de lire Maria Zambrano aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est peut-être ce qui nous manque en ce moment.
Si on prend un exemple d'expérience concrète de l'espérance à l'échelle individuelle, donc prenons le cas de Maria Zambrano, par exemple, comment l'espérance lui permet-elle de traverser le deuil de sa sœur Araceli? On sait qu'elle était très proche d'elle, celle-ci meurt en 1972. Qu'est-ce que l'espérance lui apporte?
Voilà, là devant, c'est toujours ces situations sans issue finalement où naît l'espérance, et donc la mort de sa sœur, c'est son monde qui s'écroule véritablement. Et au moment où elle est devant, en plus sa sœur lui avait demandé de la laisser mourir, donc elle a vu sa sœur partir contre son gré, et donc elle voit le corps de sa sœur morte. Et là, il y a deux images qui vont se superposer. D'abord, l'image de sa sœur au moment de sa naissance. Et ensuite, justement, cette image de ce corps mort, elles ne font qu'une. Il y a comme si ce corps irradiait une sorte de lumière, et elle va penser cette présence de la mort à travers deux images qu'elle est allée chercher à Athènes lors d'un voyage, qui est l'image du le fameux masque d'Agamemnon qui est tout en or, d'une part, et d'autre part, un lécite, c'est-à-dire un vase mortuaire, sur lequel est peinte une scène où on voit sur le fond tout blanc lisse du vase, un couple de parents observer leur fille morte, et la fille semble flotter légèrement en l'air, et il y a toute cette blancheur, toute cette lumière, et le corps de cette jeune fille, et ce que dit Maria Zambrano, c'est qu'à ce moment-là, le corps de sa sœur est devenu comme une sorte de lampe. C'est comme si toute sa vie s'était déployée tout d'un coup, mais cachée par la lumière, et on cherche à savoir ce qui se passe de l'autre côté de la lumière, et ce qui va la frapper, c'est l'absence de la respiration, et comme toujours chez elle, c'est à partir de la négativité que tout se pense, cette absence de la respiration lui fait imaginer une autre forme de vie qui se développe de l'autre côté de l'écran de la lumière.
Encore une fois, c'est toujours de la pénombre que naît la clarté, exactement, de la mort que naît la vie.
Oui.
Et si on prend maintenant un exemple d'expérience concrète de l'espérance, mais cette fois-ci à l'échelle de l'histoire, et vous l'avez un petit peu évoqué, Maria Zambrano n'est-elle pas elle-même un aqueduc, pour reprendre son image, au sens où par son œuvre, elle nous transmet elle aussi la capacité d'espérance, et comment, selon vous, Jean-Marc Sourdillon, le fait-elle peut-être le mieux ?
Je pense en passant par l'expérience. C'est-à-dire que sa pensée est toujours incarnée, elle est toujours en situation, et aussi d'une manière un peu énigmatique parfois. Moi, j'aime beaucoup, enfin, s'il fallait lire un livre, pour moi en tout cas, commencer Maria Zambrano, ce serait Les Clairières du Bois, que je trouve un livre magnifique, qui est une suite de fragments, et c'est un peu comme quand on regarde à travers un verre dépoli. C'est-à-dire qu'on voit la lumière, mais on sait pas toujours très clair. Mais en même temps, il y a justement au cœur de cette œuvre ce mouvement à la fois vers l'avenir et vers la lumière, à travers tous les dédales, tous les labyrinthes et toutes les souffrances de l'existence, personnelle comme historique, qui fait qu'avec elle, on respire.
L'espérance, en même temps, semble inextinguible. C'est en réalité, Elisabeth Barre, une force qui doit être préservée et se transmettre, on vient de le dire, pour Maria Zambrano.
Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, il n'y a plus grand-chose à ajouter. Après, effectivement, elle dit bien au début aussi du récit, des racines de l'espérance. Elle dit, quand elle oppose les peuples opprimés qui ont cette force surhumaine en eux, elle l'oppose à nous autres en Occident, qui, avec nos prétentions à régenter la réalité sans avoir de contact avec elle, écrit-elle, et avec nous sommes justement tout le temps angoissés et en fait en perte d'espérance.
Oui, j'ajouterais juste, on a le sentiment aussi d'être dans une sorte d'amertume permanente, coincé dans notre impuissance, avec une sorte de trousse à outils pour bricoler des situations, alors qu'en fait on a besoin d'un horizon, donc du travail de l'imagination pour représenter pour nous l'espérance justement en acte, et ça c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui.
Eh bien, je vous propose de terminer sur ces mots. Il est peut-être urgent de lire Maria Zambrano. Merci beaucoup Elisabeth Barre et Jean-Marc Sourdillon. Les références de vos travaux sont indiquées sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci également à Géraldine Sageman qui, toute cette semaine, a prêté sa voix à Maria Zambrano. À la prise de son aujourd'hui, c'était Clara Galivelle. Et je remercie chaleureusement Julie Béressy pour la réalisation de toute cette série d'émissions.
France Culture.
5 ans après le début de l'épidémie de Covid, 2 millions de Français souffrent d'un Covid long, en clair de symptômes ayant persisté plusieurs semaines après l'infection initiale, des symptômes perdurant pendant des mois, voire des années.
Marina Carrère d'Encausse.
Signes respiratoires, digestifs, neurologiques, plus de 200 ont été recensés, souvent chez des adultes jeunes, majoritairement des femmes. Mais que sait-on aujourd'hui de cette maladie? Quelles en sont les causes et comment...
90 et 2000
sont dans Fréquence 3 Collector.
Fréquence 3 Collector.
Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death. Us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep it, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Collector.
19h-20h
sur Fréquence 3.
Pushing everything, I'm right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home, you're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, you turn me on, turn me on. Let me charm you, come wine order on me. You got me going crazy, you turn me on. My python hollering for mercy, yeah. Then it was throwing her wrist way harder. And then she said to me, boy, just push that thing, or push it harder back on me. So let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, you turn me on, turn me on. Let me jam you, girl, why not run me? You got me going crazy, you turn me on, turn me on. Hug me, hug me, kiss me, squeeze me. Hug me, hug me, kiss and caress me. Hug me, hug me, kiss me, squeeze me. Hug me, hug me, kiss and caress me.
When I get on a number with me tonight, yeah. If you think they're not gonna fight, we don't feel with popcorn, mm-hmm. That's right. Walk on play when I fight.
For the longest while we're jamming in the party, and you're whining on me, pushing everything right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home, you're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy, you turn me on, turn me on. Let me jam you, girl, why not run me? You got me going crazy, you turn me on, turn me on.
Des tubes ? Non, des collecteurs.
19h-20h
sur Fréquence 3.
Anytime I need to see a face, I just close my eyes. And I am taken to a place where your crystal mind and magenta feeling take a chapter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't even try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Come and stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you. But I look and then I smell a perfume. It's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for. Conversation is a time and place in the interaction of a lover and a mate. But the time I'm talking using symbols, using what can be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you when I get to you.
Alors on a regardé au loin. Au-dessus des nuisances, le soleil s'est rayon. Au-dessus.
parle dans le micro.
Comme ça m'angoisse les interviews, j'arrive pas à parler.
C'est
en
là,
plus.
C'est mémorable. On passe à la radio aujourd'hui quand même.
C'est l'enfer.
Studio Zephyr Vendôme, c'est sur le 91.7 FM. Et partout dans le monde sur studiozeph.fr.
Not for me. Church bells are being rung, but not for me. I am without love. I can doubt love can be warm and tender for some, but not for me. Not for me.
Thank you. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen. Nous, nous avons nos matins blêmes, et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même, à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Oh, faites que jamais ne revienne.
Compositeur, grande figure de l'histoire de la musique, les sagas musicales de l'été, c'est tous les jours à 9h sur France Musique. Et quand vous voulez, sur l'appli Radio France.
France Musique.
Dimanche soir sur France.